appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasaï Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons à nouveau pour ces nouveaux numéros des Paroles aux Auditeurs, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité à Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur la fréquence de la paix. Dans son allocution à la tribune des Nations Unies, le président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé son indignation, le fait que malgré la présence de l'ONU, la plupart des espoirs de paix et de développement dans la région des Grands Lacs ont été déçus. Et dans le même ordre d'idées, le vice-premier ministre et ministre des Finances et de la Coopération au Développement de la Belgique estime qu'il faut des réponses régionales pour faire face à des défis majeurs en matière de sécurité, de stabilité et de développement dans la région. Selon vous, quelles peuvent être ces réponses régionales? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 4969 pour votre intervention en direct. Vous avez en même temps la possibilité d'interagir sur notre page Facebook ou bien sur www.radiocapi.net. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyangassa, Nico Kalambay et Pierrot et la Mégie concourent tous à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anchi. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Sylvain, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Monsieur J.R. Bonjour à tous les auditeurs des Radio Capi.
Vous pensez que les réponses régionales sont la sécurisation des frontières, l'éradication des groupes rebelles et au niveau interne des États, il faut une création des emplois.
Oui, puis plutôt il disait que le problème de la problématique des rébellions dans la région des Grands Lacs, surtout à l'est de notre pays, c'est lié au problème de la précarité de la vie sociale. Et mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire au niveau régional? Il faut que chaque État arrive à sécuriser ses frontières. Il faut des mécanismes de contrôle vraiment très efficaces. Il faut éradiquer les rébellions. Mais à l'interne, c'est comme j'ai dit. Vous savez, aujourd'hui, les choses, parce qu'ailleurs, il y a pas de rébellion. Les citoyens lui-même se sentent concernés et il y a une transparence dans la gestion des affaires de l'État. Mais ici, chez nous, s'il y a une question de mégestion, lorsque les citoyens vont chercher à se lever pour faire bruit ou pour chercher à avoir des clarifications, donc, on a un système de dictature. Celui qui est au pouvoir veut s'imposer pour se faire sentir. Alors, ça crée des frustrations. Lorsqu'on n'a pas aussi des emplois, ça crée des frustrations. Et quand on parle de la paix ou bien de la sécurité, moi, j'ai toujours dit que la question de la paix, elle est transversale. La question de la paix, c'est pas seulement réduire la question des rébellions, le bruit des bottes, c'est-à-dire des armes, mais la paix vient quand les citoyens ont une nourriture décente, dont ils peuvent manger à suffisance, ils ont des bons logements, ils ont des emplois qui leur payent bien, ils peuvent s'exprimer lorsqu'il y a une question qui intéresse la vie.
Oui, mais Sylvain, la question, c'est qu'il y a déjà eu des efforts par le passé pour arriver finalement à apporter cette réponse à toute cette question complexe que vous évoquez. Mais c'est comme si aujourd'hui, quand le chef de l'État fait un tel discours au niveau de Nations Unies, et c'est dans le même ordre d'idée que le vice-premier ministre, ministre et ministre des Finances et de la Coopération au Développement de la Belgique, revient et qui estime qu'il faut des réponses régionales, c'est comme s'il s'agit là d'un aveu d'échec de tous ces efforts consentis par le passé. Notamment l'accord d'Addis Abeba qui a été signé par 11 pays et de deux autres pays, Kenya et les autres qui ont rejoint l'accord par après. Donc c'est pratiquement un échec aujourd'hui.
Oui, mais c'est là où je voulais en venir. Il y a eu des efforts, mais quel est le résultat, quel est l'impact de ces efforts? Aujourd'hui, en RDC, vous êtes bien informés. Si nous devons faire une moyenne, quelles sont les statistiques en termes d'emploi? gagné par les citoyens congolais. Il n'y en a pas. Nous sommes en deçà même de l'échelle. Combien de citoyens congolais qui peuvent manger à suffisance aujourd'hui? Combien de citoyens congolais qui peuvent accéder facilement à l'emploi? Est-ce qu'au Congo, par exemple, ici chez nous, les principes de la méritocratie, l'accès au pouvoir, ou bien aux fonctions d'État, ou bien aux fonctions publiques, selon les compétences que l'on présente, et c'est respecte.
Oui, voilà, mais vous avez estimé, dans votre intervention sur notre page Facebook, vous avez dit, parmi, au fait, des réponses, figure également la contribution significative de chaque pays au niveau de la région. Est-ce qu'aujourd'hui, dans quel état fonctionne la CIRGL?
Oui, mais dans quel état fonctionne la CIRGL? Vous savez, les organisations internationales, ce sont des structures diplomatiques. On a un langage diplomatique. Tel État viendra avec sa position, l'autre avec sa position, mais au niveau interne d'abord, les États doivent s'organiser. Parce que les emplois, c'est pas la CIRGL en Inde qui doit créer les emplois pour les Congolais, c'est le gouvernement ou bien l'État congolais qui doit les créer. En organisant les conditions internes, parce que ouais, même les rébellions que nous disons à l'Est, vous les savez, on dit aujourd'hui que ce sont les multinationales qui financent ces guerres au milieu des pays étrangers, mais ces pays étrangers au milieu des multinationales, ils utilisent les propres citoyens congolais. Pourquoi sont-ils utilisés ces citoyens congolais? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent? Parce qu'ils vivent dans la précarité. Quelqu'un qui vient, qui lui propose 100 dollars ou bien 200 dollars que le gouvernement n'est pas à mesure de lui offrir ou bien de lui offrir un emploi, il accepte, il se met dans la rébellion. Mais si les conditions sont réglées, si on sait aujourd'hui sécuriser, comment est-ce qu'on pouvait extraire les minerais, qui exploite et comment cela se fait s'il y a la traçabilité? Si on organise par exemple les élections de manière régulière, parce que vous voyez cette question de l'Est là, il y a des fois les politiciens. Il a été ici en compétition parce qu'il n'a pas réussi avec les frustrations qu'il lui a. Il va aller concocter avec les multinationales, il va utiliser les petits peuples. Et voilà, c'est comme ça la situation.
Merci beaucoup. Voilà, pour vous estimez que, en ce qui concerne notamment la RDC, il faut des efforts en interne. Là encore, ça relance le débat sur tous les mécanismes mis en place. Et d'ailleurs, pour répondre aux recommandations de l'accord de d'Addis Abeba, la RDC a vite mis sur pied, disons, le fonctionnement du mécanisme national de suivi. Et bien avant, il y a eu beaucoup des mécanismes qui ont été également proposés pour finalement trouver des solutions, mais cela, c'était sans succès. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand le chef de l'État revient à la charge sur cette question, c'est comme si il est question maintenant de repenser autrement des solutions à entreprendre, ou encore peut-être à réadapter l'accord d'Addis Abeba. Merci beaucoup, Sylvain. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Oui, Gilles, bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Quel est votre avis, Olivier?
Oui, JR, la question est très, très complexe et compliquée. Vous savez, quand vous allez dans la région des Grands Lacs, si vous allez à Goma, Butembo, Beni, eh ben, tout le monde vous dit les affaires sont florissantes. Alors, vous voyez, ça signifie que, en fait, c'est un monde d'affaires. Et que ce soit les nationaux, que ce soit les étrangers, tout le monde trouve que les affaires sont florissantes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Normalement, nous sommes en politique, l'honnêteté, c'est une chose très très difficile, l'honnêteté. Mais enfin, si on arrive un jour à trouver des personnes honnêtes, ça permettrait de résoudre les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des frustrations de plusieurs types, qui mon prédécesseur en a parlé, et ces frustrations sont la cause de plusieurs comportements déviationnistes. Alors, vous avez, si vous allez aujourd'hui à Ituri par exemple, eh bien, on vous dit, les populations des plusieurs villages sont frustrées par le comportement des Kibaliba gold mining. Et vous avez, au Katanga, vous allez dans le Nord Kivu, et il y a plusieurs choses comme ça. Alors, au niveau individuel, on vous dit il y a des bandits, on vous dit il y a des terroristes. Mais moi, je vous dis que le mot terrorisme aujourd'hui, c'est parmi les choses qui justifient plusieurs attitudes de plusieurs nations et des attitudes négatives en défaveur des populations. Et lorsque le ministre belge propose des solutions régionales, et là aussi, c'est parmi les expressions les plus vagues et les plus floues, solutions régionales. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on prend la RDC, on prend le Rwanda, on prend le Burundi, on vous dit, mettez-vous ensemble et partagez ce que vous avez, ça va diminuer les mécontentements. Mais on va partager sur base de quoi? C'est ça l'une des solutions régionales. Et lorsque on parle de banditisme au niveau des personnes, Mais on oublie de dire qu'il y a du banditisme international, du banditisme et l'escroquerie internationale. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Je vous donne une réaction du ministre chinois des Affaires étrangères aux Nations Unies, dernièrement. On lui dit, mais la Chine est en train de tuer, la Chine est en train d'arrêter les musulmans. Eh bien, voici ce que la Chine a répliqué. Il dit, mais c'est vrai, plusieurs nations se disent, sont devenues des chantres de la lutte antiterroriste. Mais pourquoi ces nations n'arrivent pas à nous expliquer ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Irak et ce qui se passe en Syrie? Alors, vous voyez que ça, c'est la Chine. Donc, ça signifie que même quand on l'accuse, on n'a pas beaucoup d'armes pour l'attaquer sérieusement parce que tout le monde a les mains sales. Et en ce qui concerne le Congo, je peux vous dire que si on ne fait pas attention, eh bien, le Congo, ça va devenir la deuxième Syrie. Alors, qu'est-ce que moi je propose? Il faudrait d'abord que les dirigeants congolais, en particulier, les dirigeants africains de manière générale, deviennent des dirigeants comme les autres. Ils n'aiment pas leur pays. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez le Bénin. Patrice Talon, avant qu'il arrive au pouvoir, c'était parmi les meilleurs conseillers de tout le monde. Non, moi je ferais ceci. Mais aujourd'hui, Patrice Talon, vous avez vu, il s'en est pris à son prédécesseur, Boni Yayi. Et donc, les présidents africains, de manière générale, sont, on dirait, des personnes qui viennent pour leur propre compte et ils aiment collaborer avec d'autres nations et des groupes même terroristes. Vous avez aujourd'hui le G5 Sahel. Mais ça permet à tout le monde de venir au Sahel, mais pour faire quoi?
Oui, Olivier, juste une question, parce que là, je suis en train de lire le commentaire de Alain Évariste Babassanga, qui nous a écrit également, qui dit ses réponses peuvent être, un, identifier les auteurs intellectuels et financiers de ces groupes rebelles, et les traduire devant les instances judiciaires régionales et internationales. Oui, il y a là une réflexion qui nous taraude à l'esprit. Donc, c'est quand nous posons la question, où en est-on avec les procès Cheka aujourd'hui, et finalement, même l'ampleur que cela devait avoir pour, au fait, empêcher et décourager ceux qui sont actifs encore dans l'est de la RDC, ces procès semblent être un procès qui est négligé, qui n'est pas suivi, qui n'est pas médiatisé.
Pas négligé, mais c'est un procès qui est une formalité. Jean-Bosco Taganda est où? Koundabatoire est où? Mais d'autres Jean-Bosco Taganda vivent toujours. D'autres coudabatoires sont toujours en train de travailler. Et c'est comme ça que les groupes armés, allez à Goma, vous allez voir que les landcuisers, il y en a en quantité exportable. Mais ce sont les affaires. Et donc, les groupes armés, ce sont les affaires. Et ça permet à l'usine d'armement d'Assou, l'usine d'armement des Belges et les autres usines d'armement de fonctionner. Donc, on doit être honnête pour parler de ces choses-là. Et sinon, on va continuer à dire à la population, écoutez, c'est seulement votre président qui vous tue, mais c'est une affaire internationale. Donc, il faudrait qu'on soit honnête au plan international et qu'on arrive, et que tout le monde arrive à comprendre que nous devons penser l'avenir autrement. Sinon, nous sommes foutus, la RDC va devenir la deuxième Syrie, et puis on va créer le G4, le G10 Grand Lac, et il n'y aura jamais de paix. S'il n'y a pas d'honnêteté dans le langage de tout le monde.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Nous allons retrouver à présent notre invité, honorable Paul Mouindo, qui nous a rejoint à ce niveau du débat. Honorable, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis avec vous. Bonjour à vous, à J.R. Lombo et à tous les auditeurs.
Alors d'abord, quelle est votre réaction après avoir écouté ces deux intervenants de tout à l'heure? Est-ce qu'on peut dire que, entendre les discours du chef de l'État au niveau de l'ONU, et qui a été d'ailleurs relayé dans le même ordre d'idée par le vice-premier ministre et ministre des Finances et de la Coopération au Développement de la Belgique, qui estime qu'il faut des réponses régionales pour faire face à des défis majeurs en matière de sécurité, de stabilité et de développement dans les Grands Lacs. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce que vous estimez que c'est un échec aussi aujourd'hui, un aveu? Elle avait de l'échec de l'accord d'Addis Abeba.
Oui, je crois que lorsque nous essayons d'observer aujourd'hui la situation qui se passe surtout en RDC, par là de ce qui s'est dit à Beni, dans le Nord Kivu, à Ituri, et voire même dans la province du Sud Kivu, jusque dans les Maniema et puis les Katanga, on peut facilement constater qu'il y a un échec patent de toutes les résolutions prises jusqu'à ce stade. Et lorsqu'on constate l'échec de ces résolutions, prise par plusieurs chefs d'État et parrainée par diverses organisations au niveau international. Je crois qu'il y a lieu de se poser la question, est-ce que il vaut encore mieux de signer d'autres accords ou il faut appliquer ce qui était déjà signé? Parce que vous savez, M. Gire et tous les auditeurs, c'est bien bon à chaque fois que lorsqu'on a un nouveau chef d'État, qu'on puisse inventer, qu'on puisse dire qu'il doit inventer des choses pour pouvoir appliquer de nouvelles solutions. Mais la préoccupation importante, c'est de savoir si on essaye de voir dans toutes les résolutions qui ont déjà été prises, est-ce que ces résolutions étaient réellement exécutées? Est-ce qu'il faut encore remobiliser des efforts pour signer d'autres accords? Ou il faut se focaliser sur la résolution ou l'application concrète de tous les accords et résolutions prises jusqu'à ce stade? Lorsque nous essayons de voir aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, au niveau de l'Est, nous avons la brigade spéciale. La brigade spéciale, c'est une réponse régionale. Mmh. Et cette réponse régionale est due, n'est-ce pas, à une résolution ou à l'accord d'Addis Abeba qui avait été signé, mmh, et donc qui avait demandé à ce qu'il y ait intervention et tout ça. Cela avait été chapeauté par la MONUSCO. Et aujourd'hui, cette solution s'est faite sur place. Nous avons la CIRGEL. La CIRGEL qui a également à participer de près ou de loin, et surtout de près, dans la résolution du conflit contre l'M23. Mais ici, il faut signaler qu'il n'y avait pas que les efforts des pays voisins ou de la CIRGEL. Il y avait aussi une volonté interne pour mettre fin à cela. Donc moi, je crois qu'au-delà de voir les résolutions qui doivent être signées, une solution régionale pour des problèmes de notre pays, moi, je crois qu'il faut voir plutôt les choses autrement. Et il faut se dire, avant d'aller ailleurs, est-ce que nous, au niveau interne, nous avons des capacités pour pouvoir nous présenter aux côtés des autres? Puisque nous ne pouvons pas toujours continuer à faire recours à d'autres personnes, alors qu'au niveau interne, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont très visibles par rapport à la société que nous traversons. Et moi, je crois que c'est là que la solution, ou c'est là que les efforts devraient être fournis. Aujourd'hui, il fallait plutôt que nous puissions focaliser les efforts de la République sur une réorganisation d'une armée forte, puisque quand nous essayons de voir ce qui se fait en Angola, ce qui se fait en Ouganda, la petite paix que nous avons au Rwanda, et paix à Tanzanie, mais on a d'abord affaire à des États forts. Et puis, s'il se pose certains problèmes, on peut pour des solutions, pour permettre à ce que le voisin intervienne, on peut faire recours à une manière cosmétique. Mais ici, nous voulons trouver une solution durable à travers des résolutions ou à travers des pays voisins, alors que les intérêts sont divergents. Vous le savez, M. Gier, et si je dois être plus concret, mmh, aujourd'hui, par exemple, l'instabilité à l'Est favorise l'émergence du Rwanda. Mmh. L'instabilité à l'Est favorise l'émergence de l'Ouganda. Puisque tous les investisseurs, par exemple, supposons qu'ils peuvent venir investir dans la cassiterite, mais ils ne peuvent plus venir s'installer au Congo puisqu'il n'y a pas de stabilité. Ils doivent aller là où il y a la stabilité et le Rwanda peut facilement aller au de stabilité. Ce qui explique que nous avons beaucoup d'industries minières au niveau du Rwanda, alors que l'exploitation se fait au Congo. Vous prenez simplement les gaz. Le gaz est totalement mieux exploité au Rwanda, alors que chez nous, ça ne se fait pas. La même chose, vous prenez le pétrole. Le pétrole s'exploite en Ouganda, alors que nous avons la même nappe.
Alors, si je comprends bien, honorable...
Vous comprenez que l'importance,
oui,
les intérêts sont divergents. Mmh. Dans la sous-région, les intérêts sont divergents. Donc, je me dis très simplement, à capitaliste, que ces pays voisins peuvent à tout prix tout faire pour qu'il y ait davantage de stabilité afin que leur émergence puisse continuer. D'où la vision globale serait de réformer et de focaliser les efforts sur une construction d'une armée forte, sur des offensives contre tous ces groupes rebelles et s'affirmer en tant que puissance régionale. Et avec ça, on peut maintenant
commencer à négocier avec les autres. Voilà au moins comment il faut concevoir la situation ou l'état de lieu par rapport à cette question voilà. Que le chef de l'État a évoquée au niveau de l'Assemblée.
Donc si je comprends bien. Alors si je comprends bien, honorable Zangui, honorable Mouindo, qu'effectivement donc la RDC c'est le dindon de la farce dans tous ces accords, dans toutes ces résolutions. Qu'on prend pour le rétablissement de la paix dans la région.
Ben bien sûr, nous faisons trop de confiance à d'autres personnes et tout en oubliant d'avoir une politique interne qui puisse nous donner une capacité, n'est-ce pas, dissuasive vis-à-vis de tous ces pays voisins. C'est en fait là le problème. Lorsque nous allons signer les accords. Parce qu'effectivement, quand on essaie de voir l'histoire des guerres au niveau international, beaucoup de guerres se terminent, n'est-ce pas, par des accords, par des dialogues. Mais les dialogues aboutissent comment? C'est lorsqu'on sait réaliser que les efforts sont équitables. Ça veut dire, on a par exemple essayé de mener une guerre contre X pays et qu'on s'est retrouvé sur le champ de bataille, mais il n'y a pas eu de vainqueur. Mais aujourd'hui, on constate que il y a des vainqueurs parce qu'aujourd'hui, ceux qui profitent de l'instabilité de notre pays sont les vrais vainqueurs de l'insécurité de notre pays. Mais qu'est-ce que nous faisons au niveau interne? Ouais.
Tout à fait. Il faut des efforts.
Voilà. Et comment nous allons négocier avec les autres? On va négocier avec les autres États à genoux puisque nous sommes dans l'incapacité de mettre fin à des petits groupes qui sèment des désordres, les petits groupes de bandits ici et là. Non, c'est inacceptable. Donc, je crois que la RDC devrait démontrer sa capacité militaire vis-à-vis de ce pays voisin, en éliminant certains groupes, par exemple, vous voyez ce qui se passe à Béni. Il est possible, par exemple, de mettre fin à ce phénomène au niveau de Béni si les offensives sont bien organisées et lancées à temps.
Ouais. Merci donc, beaucoup.
Je crois que c'est là l'importance.
Oui.
La RDC doit avoir sa place, et cette place-là ne doit pas être celle de négocier à culotte, ne doit pas être cette place qui permettra à la RDC de négocier à genoux. La RDC, avant de se vendre au niveau interne, au niveau, disons, externe, doit être en mesure de construire sa structure militaire, doit être en mesure de construire sa capacité militaire, une capacité qui doit être dissuasive. Et avec ça, elle pourra maintenant négocier avec les autres.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Paul Mouindo. Nous vous gardons en ligne. Il est temps d'accueillir également d'autres auditeurs qui sollicitent d'intervenir dans cette émission Parole aux auditeurs. Et là, il y a Christian Politassi qui estime que la réponse régionale doit d'abord être la réponse nationale, comme vous venez de le dire, honorable, par rapport aux mêmes préoccupations, c'est-à-dire chaque État doit redoubler des efforts pour réorganiser et récarburer son armée afin de garantir la sécurité intérieure, même exercice concernant la stabilité dans toutes ses formes économiques, sociales, juridiques, judiciaires, etc., etc. Dès lors que chaque pays de la sous-région sera à même de répondre à toutes ses préoccupations sur son propre territoire, c'est alors que le problème des sécurités, des stabilités et des développements seront résolus dans les grands lacs. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Parole aux auditeurs.
Plusieurs accords et également autres résolutions ont été pris pour la paix, la sécurité, la coopération dans la région. Mais 6 ans après, donc depuis 2013, on se rend compte que cette solution proposée continue encore à battre de l'aile et qu'aujourd'hui les voix s'élèvent pour demander à ce qu'on puisse repenser des solutions régionales durables. Joséphine, Madame Joséphine, vous êtes à Boston, à Massachusetts et Félicien à Kinshasa. Bienvenue dans cette émission, Madame Joséphine. Bonjour.
Bonjour Radio Capi. Hein. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Moi, je vais dire vite ceci. Hein. Cette histoire de rébellion, de tuerie, de la stabilité de l'Est, ça a pris plus de 20 ans. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, en premier lieu, que l'État lui-même, l'État congolais, crée des comptoirs d'achat des minerais, qui commencent à racheter les minerais auprès de ceux-là qui le privé, le particulier, comme il n'y a pas encore des entreprises de traitement. En attendant, quand ils achètent, l'État congolais achète les minerais, et puis ils commencent à construire les usines de traitement sur place. Parce que c'est le fait de prendre les minerais au Congo pour aller les vendre dans d'autres pays, c'est pour ça que ça pose des problèmes. C'est pour ça que les autres pays viennent, les autres populations des autres pays viennent au Congo pour tuer les Congolais et prendre les minerais. Le comptoir d'achat des minerais auprès de ceux-là qui font les minerais, faire le recensement. Notre gouvernement doit faire le recensement de la population en commençant par l'Est. L'Est, les Katanga, tous les Katanga comme ils étaient grands. On fait le recensement de la population. Et moi, je crois que c'est ça la solution.
Oui, parce que quand vous parlez de recensement, vous relancez donc le débat sur la question des nationalités, parce que l'effet de frontières, quand on vit en frontière, il y a toujours ce problème de cohabitation avec les étrangers. Et comment aujourd'hui la question, par exemple, des terres se pose aussi avec acuité dans cette partie de la République.
Avec le recensement, on saura qui est qui. Donc, créer le comptoir d'achat. Le gouvernement lui-même commence à acheter les minerais. En attendant, il commence à construire le compagnie de traitement sur place au Congo. Parce que ce sont nos minerais. Nous devons avoir des compagnies comme la Gécamine, comme la MIBA. On doit avoir une compagnie qui traite les minerais à l'Est aussi. Comme il y a une autre compagnie à Kisangani de gold, whatever it is.
Voilà, merci beaucoup.
Faire le recensement de la population. Mm-hmm. En attendant, les militaires sont en train d'être traînés pour barrer tout le monde au border.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir accepté d'intervenir. Deux problèmes que vous posez, le recensement et puis que l'autorité de l'État puisse s'établir dans cette partie de la République démocratique du Congo, notamment en y mettant des comptoirs déminérés, parce que ce qui divise les Congolais et aussi d'autres pays voisins, c'est finalement les commerces qui s'est fait, les négoces, les centres de négoces. Le Congo devient un centre de négoces des minéraux. Et aujourd'hui, c'est pratiquement aux grandes dames de la population riveraine vivant tout autour de la RDC. Merci beaucoup. Alors, Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ouais, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent partout dans le monde. Merci d'avoir encore évoqué une fois cette question d'insécurité à l'Est qui nous préoccupe tant en tant que vrais patriotes de ce pays. Bon, d'entrée de jeu, cette situation-là est une situation grave qui nécessite des solutions palier par palier. C'est une situation qui est tout à fait complexe qu'on ne pourra pas résoudre en un seul coup. Heureusement que le chef de l'État lui-même l'a compris et puis l'a exprimé du haut de la tribune des Nations Unies dernièrement. À mon niveau, pour cette situation-là, j'aurais voulu avoir certaines propositions, comme par exemple que tous les pays de la sous-région devraient faire ce qu'on appelle cette coalition. Cette coalition consisterait en quoi, en quel sens? À mon avis, cette coalition devrait consister à, d'abord, créer les emplois pour les jeunes partout au niveau de la sous-région, dans tous les pays de la sous-région. Puisque, si vous voyez bien, les mouvements qui sèment de la terreur là à l'Est sont des mouvements qui sont internationaux. Il y a beaucoup de nationalités là. Vous trouverez des pays différents, tout ça. Mais si, par exemple, chez nous, au Rwanda, par exemple, s'il y a d'emplois, parfois il y a l'emploi des jeunes. Vous verrez que les Tanzaniens qui sont au chômage vont toujours se constituer pour semer de la terre. Puisque tant qu'on n'a pas toujours d'emploi, dans l'un des pays de la sous-région, l'insécurité ne prendra pas fin de l'autre côté. La deuxième des choses, ou deuxième proposition pour moi, j'aurais souhaité que on puisse aussi...
Quand vous évoquez la question de l'emploi, Félicien, on sait qu'aujourd'hui, la situation du chômage, elle est pratiquement identique dans la quasi-totalité des pays africains, et surtout dans la région. Alors, comment se fait-il que la RDC seule a un nombre élevé de groupes armés encore actifs, contrairement, par exemple, au Rwanda, à l'Ouganda ou encore ailleurs?
Oui, mais c'est là qu'il y a de la proie. Mais parce que lorsque parfois, si vous voyez bien, les minéraux qui sont, les nombres de minéraux qui sont en RDC, plus précisément à l'Est, ne sont pas les mêmes qui sont en Tanzanie ou soit en Ouganda. Ici, nous avons, bien sûr, on reconnaît ce problème de fragilité de notre armée. Parfois, notre armée a connu des difficultés, tout ça, elle est un peu fragile. Il fallait, cette proposition-là pouvait venir en deuxième position. Après avoir stabilisé le problème d'emploi, puisque la plupart des jeunes là, moi je vous informe que j'ai même certains camarades qui nous ont laissé nous sous les bancs de l'école pour aller dans l'armée, dans ce qu'on appelle les milices là. Puisque là ils ont vu que non, de l'autre côté, nous aurons de l'argent facilement que vous qui restez en train de chercher des emplois dans des bureaux là. Donc c'est en quelque sorte, si nous cherchons d'abord, nous réduisons d'abord le nombre de chômage. Alors, à ce moment-là, on doit maintenant encore faire une armée qui est de la sous-région, la doter de moyens conséquents pour maintenant riposter aux récidivistes, ceux qui vont résister, ceux qui vont refuser à ce que nous puissions plus déposer les armes, puisque vous voyez qu'on a lancé les appels pour le dépôt des armes, certains ont résisté. Bon, ceux qui vont résister là, ils auront maintenant les moyens de l'État à leur raconte. La troisième des choses que j'aurais proposé, c'était aussi bien investir dans le processus de réintégration des anciens combattants qui sont dans les brousses là-bas. Mmh. Vous voyez que avec nous seuls, bien que l'État congolais a au moins lancé l'appel aux groupes armés de poser les armes, certains quand même ont eu cette bonne volonté-là. Nous avons vu à Ituri, à Djougou, tout ça. Ils ont déposé les armes, mais leur processus de réintégration sociale pose problème. Mmh. Parfois, ça prend du retard. Quand ça prend du retard, vous prenez quelqu'un qui a déjà fait 5, 10, 20 ans dans la brousse. Il a déjà pris des histoires, des substances toxiques. Sa mémoire ne travaille plus bien. Pour que vous puissiez lui dire encore non, attendez, il y a des processus, on va d'abord décaisser l'argent. Non. Mais si, par exemple, notre sous-région prenait en cœur cette situation, pourra même commencer, pourquoi pas créer même une banque, ne fût-ce que pour commencer à aider ces
agents. À démobiliser. Merci beaucoup.
Oui, à démobiliser.
Merci beaucoup, Félicien.
Moi, je veux qu'on propose.
Merci beaucoup, Félicien. Voilà. On va prendre Ifaso Ambandaka avant de retrouver à nouveau notre invité, l'élu des Bénis, honorable Paul Muindo Zangi. Alors, Ifaso Degué, vous êtes Ambandaka. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, Radio Kapi. Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre contribution, Ifaso?
Oui, monsieur Gir, moi je pense que la question d'aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui, c'est un bon débat. Et le problème de notre sous-région, la région Est, elle est colonisée par beaucoup de la multiplicité de groupes armés. Il n'y a pas seulement une simple raison. Mais la raison principale, c'est que ces groupes armés ne sont pas les armées de citoyens congolais. Ce sont les armées, les groupes armés qui se forment à l'étranger, les Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, les bassins du fleuve Congo, qui sont en train de fouiller ces armées pour piller la richesse du Congo. De un. De deux, il y a ce qu'on appelle les conflits tribaux ethniques qui sont en train de régner. Je pense que le mois de juin de cette année même, je pris part à la conférence internationale des jeunes leaders à Goma, où on a échangé sur cette question. Pourquoi doit-il avoir
La réalité, oui. La réalité aujourd'hui, à comparer l'activisme des groupes armés étrangers à celui des groupes armés internes, disons, qu'on qualifie aujourd'hui des Mai Mai,
on se rend compte que cet activisme des étrangers est encore faible. Adif Nalou et les FDLR, à comparer avec les Maïmaï Yakutumba, Maïmaï Werason ou encore autres au niveau du Walikale, c'est pratiquement différent. Et même si nous remontons vers Beni, où la guerre d'ailleurs, on l'a toujours dit, elle est asymétrique, on ne sait pas qui font les incursions et comment ils les font, quand ils les font.
Oui, le vrai problème, c'est que les nationaux, les bénéfices du pays se solidarisent avec les étrangers pour les accompagner dans ce qu'ils font. Mais ce n'est pas les nationaux. Nous, je viens de dire que je viens de participer dans une conférence à Goma où on a échangé sur cette question. Les nationaux sont en train de se solidariser avec les étrangers. Puisque les étrangers, les nationaux n'ont pas beaucoup de moyens, nous sommes un peu pauvres. Là, on trouve un petit qui n'a pas encore étudié, il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, on lui donne l'argent, on lui dote de l'équipement militaire, il honte. Les ADF, Nalou et tout ça, moi je pense que quand le président de la République est entré en fonction, sa première mission était dans l'est du pays. Et maintenant, là, autant vous rendre des Nations Unies, je suis très content parce qu'il a amené les gouverneurs des zones qui sont en train d'être touchés par le groupe armé. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est que la RDC, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, doit avoir une politique de bon voisinage. Je pense que quand le chef de l'État était investi, il a commencé à faire les rondes en Afrique. Le Rwanda, le Tanzanie, l'Angola et le Burundi, on doit d'abord entretenir de bonnes relations. Quand on finit d'entretenir de bonnes relations, quand on dit souvent dans des relations diplomatiques, il n'y a pas d'amitié.
Il y a des intérêts.
Il y a les intérêts. Mmh. Il faut privilégier, il faut montrer à ses voisins quels sont leurs intérêts pour laisser un peu notre cher beau pays calme. Et après, quoi là, je pense que c'est une bonne chose déjà quand on a lancé la gratuité de l'enseignement. Vous savez, on a lancé la gratuité de l'enseignement, ça donne beaucoup de jeunes la chance d'aller à l'école. Et étant à l'école, ils n'auront pas l'état de former des groupes armés. Et là, ça nous permet également de nous échanger de cette histoire de
merci. Merci beaucoup, Ifasso. Merci beaucoup, Ifasso. Alors, on revient à vous, honorable Paul Mouindo. Vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Voilà. Après avoir écouté les uns les autres dans cette longue série, cette première longue série des auditeurs, comment vous réagissez? Parce qu'il y a les uns qui proposent quand même de solutions, ces solutions régionales. Madame Joséphine qui dit ceci, tout passera par le recensement d'abord de la population dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Oui, je voudrais commencer également par là, donc, par cette intervenante à partir de Boston, qui pense qu'il faut qu'il y ait un recensement et ce n'est pas aussi un problème. Vous savez, lorsque le feu brûle, on cherche d'abord comment éteindre le feu. Aujourd'hui, les populations, par exemple, qui sont à Beni, ces populations n'ont pas cessé d'être égorgées et vivent en insécurité pendant maintenant plus de 15 ans. Vous allez à Routour, c'est la même situation. Vous allez du côté massif, c'est la même situation. Qu'est-ce qui est d'abord prioritaire et qu'est-ce qui peut être fait maintenant? Donc, je crois qu'il faut, voir comment seraient les solutions et il faut aller palier par palier. Voilà pourquoi j'ai proposé. Dans un premier temps, ce qui est d'abord important, c'est que notre armée se réorganise pour mettre fin à toute forme d'insécurité. Et il est possible, n'est-ce pas? Il est possible à ce que notre armée puisse arriver à mettre fin à ce qui se passe là-bas. C'est vrai, il se pose des problèmes d'infiltration, mais vous savez que notre armée est la 9e, n'est-ce pas, en Afrique. Donc, elle a une capacité, selon différents rapports, il y a une grande capacité de pouvoir mettre fin à toutes les formes d'insécurité. Mmh. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait une réelle volonté au niveau interne. Mmh. C'est souvent ce qui nous a toujours manqué. Et de deux, la deuxième des choses, on fait au même moment en train de faire la réorganisation de l'armée, au même moment en train de demander, ce qu'il faut demander à ces pays régionaux, c'est quoi? Ce qu'il faut demander au Rwanda, c'est par exemple que le Rwanda accepte ces sujets qui sont dans notre pays, ce sont les FDLR. Il faut que ces FDLR retournent dans leur propre pays. Mmh. Oui, vous voyez, nous avons d'autre part, nous avons les ADF Nalou. Mmh. Les ADF Nalou, c'est un groupe rebelle ougandais. Mmh. Donc, un groupe rebelle ougandais, je veux dire. Il faut que l'Ouganda aussi arrive à prendre ses citoyens et
ces citoyens rentrent dans leur pays.
Mais honorable Zangui, parce que là, quand nous voyons ces deux groupes, comme vous venez... honorable Paul Mouindo, quand vous parlez des NF et des FDLR, mais on se rend compte que dans l'activisme, aujourd'hui, dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais c'est plus les nationaux qui sont mis à l'accusation aujourd'hui. Parce que les deux autres, ils sont vraiment inactifs.
Non, mais c'est ce que vous pensez. La réalité sur le terrain, c'est que les FDLR occupent des espaces aujourd'hui, et des grands espaces qui sont occupés par eux. Il faut payer les taxes, ils ont les propres justices dans ces espaces-là. Et vous avez les ADF jaloux qui n'ont pas cessé de causer tort à toute la population au niveau des Bénins. Et derrière ces groupes armés, derrière ces groupes qualifiés des ADF, il y a d'autres groupes qui s'y mixent, n'est-ce pas, pour pouvoir commettre des exactions et les mettre aussi sur ces dos-là. Mais les ADF continuent à être actifs, les ADF tuent, les ADF égorgent, les ADF continuent à poser des actes, des terreurs au niveau du territoire des Bénin. Donc, les deux groupes rebelles dont nous venons de parler là, vous avez les FDLR, vous avez les ADF Nalou, sont des groupes étrangers. Ces groupes continuent à sécuriser notre pays. Et vous savez, le grand problème que nous avons, c'est souvent, il y a un proverbe bénin qui dit « La grande porte a toujours fait entrer beaucoup de gens et même les ennemis passent par la grande porte. » Ça veut dire, lorsque nous, la RDC, nous nous considérons comme un grand pays, et c'est là, nous acceptons tout le monde, parce que quand vous prenez les FDLR, ils étaient acceptés à un moment par la RDC, suite à une demande qui avait été formulée par la communauté internationale. Les ADF Kalou étaient entrés à l'époque de Mobutu. Donc, et aujourd'hui, maintenant, les gens nous craignent de l'insécurité. Autour maintenant de ces deux groupes armés virulents, nous avons d'autres groupes nationaux qui se craignent également autour de ces gens-là. Donc, je crois que, à part là de la solution régionale, il faut savoir ce que nous pouvons demander à des pays voisins de pouvoir réaliser. Mais lorsque nous voulons maintenant transphaser qu'il y ait une guerre au niveau de notre pays, que tous ces pays-là viennent encore pour pouvoir, je ne sais pas moi pour quelle solution, je ne sais pas ce que ça va nous donner, puisque nous avons aujourd'hui notre pays, nous avons les Sud-Africains qui sont là, qui sont à l'Est, les militaires sud-africains sont là, vous avez les Malawi qui sont là, vous avez les militaires tanzaniens qui sont là, vous avez vous avez d'autres militaires, j'oublie le nom de ces pays-là.
Les Soudanais.
Vous avez plus de 6, la Tanzanie et tout le monde. Donc, nous avons plus de 6 pays africains qui ont déjà envoyé leurs militaires dans notre pays pour pouvoir combattre l'insécurité. Oui. Mais jusque là, il n'y a pas de paix. Alors, il faut voir les choses autrement. Mmh. On va encore demander à tous ces pays d'amener d'autres militaires, ou on va demander encore à d'autres pays qui n'ont jamais avoir leur pays de pouvoir amener leurs militaires ici. Sans pour autant oublier, M. Gilles, que la dimension de faire entrer divers pays, ce n'est pas à l'église, hein, où on verra un pays par une bonne volonté de dire, en tout cas, j'ai juste besoin d'aider ces pays-là. Comme ça, je vais là-bas. Non, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des intérêts. Ouais. Parce que tous ces pays qui ont leurs propres militaires, selon la Tanzanie, le Sud-Africain, vous avez le Ghanéen, tous ces pays-là, sont des pays qui sont payés. Donc c'est un business, ouais, c'est un business. Alors, je crois qu'on doit éviter d'offrir encore à tous ces autres pays une autre occasion de s'enrichir derrière l'insécurité chez nous. Il faut d'abord qu'il y ait une solution nationale. Et après cette solution nationale, au même moment, on peut associer un rôle que ces pays qui ont les groupes étrangers dans notre pays et que ces pays peuvent faire, notamment à retirer leur groupe rebelle. Et de trois, maintenant, il y a une autre solution qui sera une solution, celle que la dame du Boston a parlé.
Donc,
on doit arriver à résoudre la question de la nationalité dans notre pays. C'est que, vous savez, M. J.R., la question de la nationalité, elle se pose autrement. Lorsqu'on est à Kinshasa et lorsqu'on est à l'Est, cette question de binationalité ne peut pas être acceptée comme ça. Vous ne pouvez pas demander ce que on puisse accepter, par exemple, que quelqu'un puisse être au même moment un Rwandais, au même moment un Congolais. Mais je sais que certains politiciens, ici à Kinshasa, et d'autres qui sont à l'étranger, parce que pour résoudre leurs problèmes de représentation, de devenir, je ne sais pas moi, président, il faut arriver, n'est-ce pas, à relativiser les choses et à faire en sorte que nous puissions avoir une double nationalité. Mais cela ne peut pas se concevoir au niveau de l'Est. Mmh. Et lorsque on nous dit qu'il faut un recensement, c'est important. D'ailleurs, moi, je pensais que notre président allait commencer par là. Comment on peut diriger un pays alors qu'on ne sait même pas le nombre d'habitants qu'on a dans ce pays, alors qu'on ne sait pas qui est réellement son propre fils et qui ne l'est pas? Donc l'identification est importante et pertinente.
Alors, honorable Paul Mouindo.
Pour ce qui est de la sécurité, tout ce que nos amis ont eu à dire sont des aspects importants. Notamment, il y a même un intervenant qui a dit qu'il faut arriver à serrer les résolutions. Il faut qu'on arrive aussi à donner du travail à tous les jeunes.
Oui, la question de l'emploi.
Vous savez, le problème d'emploi, c'est un problème national, c'est un problème international, c'est un problème global. Mmh. On ne peut pas demander à l'Ouganda de faire la même chose. Mais il faut d'abord des solutions nationales. Mmh. Quelle est la politique que nous avons en matière d'emploi? Et là, nous attendons le nouveau président. Puisque à part ça aussi, par l'emploi, ça peut résoudre beaucoup de choses. Mais tout cela peut se résoudre lorsqu'on peut arriver à construire une armée forte, une armée qui a une mission de pacifier, n'est-ce pas, ce territoire, et de sécuriser ses frontières. C'est ce qui nous manque.
Merci.
Nous continuons à voir des espaces aujourd'hui qui sont occupés par les étrangers dans notre pays. C'est inacceptable.
Merci.
Il y a un autre intervenant qui a parlé des groupes armés, notamment les Maïmaï et les processus de mobilisation. Mmh. C'est aussi un autre problème réel. Nous devons avoir une stratégie interne qui permettra à ce que la démobilisation soit une solution pour la résolution de notre problème. Mais généralement, cette démobilisation a toujours échoué. On va voir, on demande à des jeunes qui s'étaient organisés pour essayer d'aider l'armée.
Voilà, c'est une occasion de rappeler que lors de son dernier...
Donc il faut réellement qu'on se mette par rapport à des solutions nationales.
Merci beaucoup.
Il est possible.
Merci beaucoup, honorable Paul Mouindo. Nous vous gardons encore en ligne pour la conclusion. Il est temps d'écouter Étienne Vivian qui quitte et puis Raphaël à Kinshasa. Étienne, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, mon frère J.R.
Quelle est votre contribution, Étienne?
Oui, en fait, je voulais tout simplement continuer dans le même lancer que Monsieur Mouindo Zangi suite à son analyse pour essayer un peu de clarifier les choses que la réforme de notre armée est véritablement la solution efficace. Mais ceci nécessite un travail de fond avec le soutien de la MONUSCO parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que notre armée actuelle est la résultante d'un brassage des anciens groupes armés autrefois parrainés par nos voisins. Alors, ce qu'il est en train d'évoquer comme problème, ce n'est pas au jour, ce n'est pas d'un coup de bâton magique qu'on va directement réformer notre armée et lui donner sa force de dissuasion capable de pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. Et surtout qu'avec la configuration actuelle, avec l'actuel chef de l'État, qui a certes la magistrature suprême, mais qui est appelé maintenant à co-gérer avec ses anciens adversaires d'hier pour une coalition des circonstances, chose, une démarche qui nécessite effectivement une grande avancée diplomatique. Voilà pourquoi nous saluons sa démarche diplomatique qui consiste à impliquer les différentes forces sous-régionales, les pays de la sous-région, afin de pouvoir ici vérifier leur sincérité vis-à-vis de grandes rencontres dont ils ont eu à se réaliser pour que chacun ne puisse comprendre que l'avènement des groupes armés et terroristes va facilement fragiliser la sous-région et il va de soi qu'on puisse concevoir la configuration d'une brigade, d'une armée qui sera ici, qui va incorporer les différents groupes armés de la sous-région, capable maintenant de pouvoir bouter dehors tous les différents mouvements terroristes. Mais seulement, à ce qu'il vient de dire, je suis parfaitement d'accord avec lui pour dire qu'il faut la réforme de notre armée, mais ça doit prendre du temps. Mmh. Ça doit prendre du temps. Et que la MONUSCO actuelle, moi je pense, ça c'est ma contribution, le président aurait dû proposer dans ce qu'il entend pour la réforme de la MONUSCO, qu'on puisse diminuer effectivement le nombre des troupes de la MONUSCO, mais seulement pour s'entendre au niveau du Conseil au niveau de l'Assemblée nationale des Nations Unies, que le rôle de la MONUSCO soit celui qui consiste nettement à nous appuyer dans le combat de la réforme de notre armée. Qu'on puisse réellement former les troupes combattantes, les forces spéciales congolaises capables d'accepter de laisser leur peau pour leur propre territoire, que d'accepter des troupes qui n'ont pas d'expérience sur le théâtre des opérations comme le Bangladesh et les autres nations qui ont bien accepté d'envoyer leurs troupes, mais dans ce que nous avons comme histoire des troupes aguerries dans le monde, nous ne voyons pas nos frères là qui sont venus nous aider, capables de pouvoir tenir tête avec ces différents groupes armés.
On en a parlé lors de sa visite d'ailleurs en Belgique. Le chef de l'État a devait signer donc une intention de protocole d'accord avec les Belges en ce qui concerne la coopération militaire. Tout ça, c'est dans les soucis toujours de lutter contre l'insécurité qui bat son plein dans l'est de la République démocratique du Congo. Étienne Vivian, merci d'avoir accepté d'intervenir. On va terminer avec vous, Raphaël. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Raph.
Bonjour, bonjour Radio Kapi. Bonjour à l'invité. Je crois la question toi, d'aujourd'hui, c'est l'une des questions très pertinentes.
Oui, quelles sont vos propositions? Rapidement, en une phrase.
Rapidement, c'est que tout doit commencer par l'armée que nous devons mettre en place. Si aujourd'hui notre pays, la RDC, nous n'avons pas une armée forte, nous serions toujours ces gens-là qui commenceront à nous lamenter tous les jours. Parce qu'on ne peut pas oublier que dans toutes les relations qui nourrissent avec d'autres États qui nous sont voisins, ce sont des questions en fait internationales et qu'en droit international, comme nous le disons toujours, là il ne s'agit pas de questions d'intérêt.
D'amitié et des intérêts. Merci beaucoup, Raphaël. Comme tous les autres, vous plaidez pour la réforme de l'armée afin de trouver réellement solution de manière régionale à ces problèmes, à cette équation, comme l'a dit Stani Itende Mpombo, qui nous a écrit. Il dit qu'il s'agit ici d'un algorithme de complicité, d'impunité et de non-véracité. Honorable Paul Mouindo, on va terminer avec vous. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, je voudrais d'abord remercier les chefs de l'État par rapport à toute cette volonté qu'ils manifestent pour trouver la paix au niveau de l'Est. Et je crois que tout ce qu'il a dit, c'est aussi important. Mais je voudrais vraiment l'appeler à ce qu'il puisse focaliser ses efforts dans la réorganisation de notre armée. Et moi, je crois que il n'y a jamais eu de fausses troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Si aujourd'hui, par exemple, on a des généraux qui n'arrivent pas à mettre fin à l'insécurité, il faut les changer. Nous avons des hommes capables qui ont déjà fait preuve, n'est-ce pas, à différentes guerres et qui peuvent relever le défi. Donc, on doit inviter d'aller signer des accords à culotte ou à position, n'est-ce pas, de faiblesse. Nous devons être en mesure de démontrer notre capacité opérationnelle sur le terrain et négocier maintenant avec les autres. Nous avons déjà plus de 6 pays africains chez nous. Il ne sera pas encore important d'en ajouter d'autres. Alors que ceux qui sont là ne sont pas en mesure de pouvoir ramener la paix. Autant la MONUSCO. Donc je crois qu'il est question d'une réorganisation, comme lui-même l'a dit, à parler d'une réadaptation de la force de la MONUSCO au sein de notre pays. Donc ça doit être la même chose pour les forces régionales qui sont déjà chez nous, mais la priorité doit être focalisée sur notre armée. Celui qui ne sera pas en mesure de relever les défis, d'imposer la paix, qu'il soit n'importe quel général, il doit être démis de ses fonctions. Comme ça, on met quelqu'un, on responsabilise même un capitaine, même un colonel, qui va faire preuve de la capacité dissuasive par rapport à tout ce que nous traversons. Moi, je crois que c'est ce qui nous manque et c'est ce courage-là que nous nous demandons.
Honorable Paul Mouindo, nous rappelons que vous êtes l'élu des Béni. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec l'ensemble des compatriotes au pays et à l'étranger. À très bientôt, honorable.
Merci également.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce programme. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.